Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large. Vous le savez, comme chaque jour, il y aura dans ce studio Bruno Donnet pour ses télescopages, Isa-Marie Marquez et son portrait pré-fame, Marc-Antoine Lebray en toute fin d'émission, tous et toutes précédés par Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences de la veille. Notre indispensable du jour, on ira au théâtre avec Patrick Chenet qui revisite Phédo. Notre info média, ce sera autour de l'engouement pour les films historiques qui peuvent parfois déclencher des passions. La preuve, avec la sortie récente du film Eiffel, qui génère également son lot de polémiques. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est inventé dans ce film? On fait le tri avec Anne Martinetti. Elle réalise le documentaire Une histoire extraordinaire, consacré justement aux films historiques, disponible ce doc sur une nouvelle chaîne dédiée à ce genre. Oui, je sais, ça fait trois infos en une. Puis nos invités, Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad, maison mère de Free, l'un des opérateurs de la Ligue 1 avec Amazon Prime. Il dépense 42 millions d'euros par an pour cela et il a des annonces à nous faire. Il a choisi Culture Média. Je peux déjà vous dire que ce sont des bonnes nouvelles, cela concerne la gratuité. Enfin, la comédienne Cécile de France dans ce studio pour un film très attendu et splendide qui sort demain. Historique aussi ce film, Illusion perdue, d'après Balzac, faut-il le rappeler, film de Xavier Giannoli, avec Vincent Lacoste, Benjamin Voisin, mais aussi Gérard Depardieu, Jeanne Balibar et Jean-François Stévenin, rien que ça. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
Alors, qu'est-ce que j'ai ce matin? Un nouveau venu dans les kiosques, l'émission Miss France attaquée en justice, The Voice, pas totalement en direct samedi soir, une candidate de Koh-Lanta qui porte plainte, la série Squid Game qui rapporte gros, et Mediapart qui contribue à un jeu vidéo.
Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé L'amour est dans le pré, leader cette semaine encore sur M6, 4 180 000 téléspectateurs, 18,8% de part d'audience. L'amour est dans le pré qui progresse hein, par rapport à la semaine dernière. Deuxième, TF1 avec son téléfilm Loin de chez moi dont je vous parlais dans le journal des médias hier. Bon score pour ce téléfilm, 4 033 000 c'est précis, téléspectateurs, 18,4% de part d'audience. Et puis troisième, France 2 avec le film Grâce à Dieu de François Ozon. C'était diffusé dans le cadre d'une soirée spéciale Église Onde de choc. 1 960 000 téléspectateurs devant le film, 10% de part d'audience.
Culture Média.
Le journal des médias maintenant qui démarre par cette info, un nouveau magazine bientôt dans les kiosques.
Baptisé Bastille, un mensuel attendu le 1er décembre. Humaniste et bienveillant qui veut raconter le monde à travers les gens d'après le journal Le Monde. Pas d'idéologie, pas de campagne présidentielle, ça ce sont les promesses, mais de longs récits qui mettront en avant ceux qui s'engagent pour améliorer le sort de l'humanité. C'est en tout cas ce que veulent ces deux créateurs, deux anciens journalistes de l'agence Reuters, William Emmanuel et François Tomaso. Bastille compte avoir recours à des écrivains aussi pour signer certains articles, à commencer par Régis Geoffrey pour le premier numéro. Jean-Christophe Ruffin présidera lui le comité éditorial. Une campagne de préabonnement vient d'être lancé sur le site du magazine Bastille, si vous voulez le soutenir, et sur ses réseaux sociaux. C'est 88 euros l'année et ensuite chaque numéro sera vendu 8 euros l'unité. Il y a une centaine de pages dans chaque numéro.
Tout à fait autre chose, l'émission Miss France attaquée en justice par l'association Oser le Féminisme.
Une action au prud'homme pour violation du droit du travail. L'association proteste chaque année à l'approche du concours, mais cette fois elle a décidé d'aller plus loin. Elle fonde sa plainte sur plusieurs éléments. Participer au concours reviendrait à travailler. Or, les candidates n'ont pas de contrat de travail, elles ne sont pas rémunérées et le règlement comporterait des clauses discriminatoires. Postuler à Miss France serait d'ailleurs de la discrimination à l'embauche à cause de critères retenu pour pouvoir participer, faire 1m70 minimum par exemple, ne pas porter de tatouage ou de piercing, ne pas avoir eu d'enfant, être ou avoir et ou avoir été mariée. L'association réclame que les jeunes femmes participant au concours soient donc reconnues comme salariées et que les pratiques discriminantes cessent. Il est temps qu'enfin la télévision ne soit plus le reflet d'une société sexiste qui promeut la culture du viol et la femme objet. C'est ce qu'écrit l'association dans son communiqué.
Vous avez reconnu le thème de The Voice, la finale ne sera pas entièrement en direct samedi soir.
Le Parisien révèle que Mika, l'un des coachs de l'émission, donnera un concert le même soir, un concert prévu de longue date. Donc il ne sera pas sur le plateau pour la finale, mais la production a trouvé un compromis. Les prestations des 6 candidats vont en fait être enregistrées dans les conditions du direct. Et puis l'annonce du ou de la gagnante sera évidemment en direct, puisque c'est vous qui votez, c'est le public qui vote en direct tout au long de la soirée. Et Mika, lui, fera des apparitions en duplex Alice depuis sa loge à la Philharmonie de Paris.
Il fallait oser. Lundi prochain, le ou la gagnante sera d'ailleurs l'invité de Culture Média. Et puis TF1 toujours, une candidate de Koh-Lanta annonce porter plainte pour harcèlement en ligne.
Kumba ne veut pas laisser impunis les messages d'insultes qu'elle reçoit, des messages suite à ses décisions stratégiques dans l'émission diffusée en ce moment même, décisions très critiquées. Sur les réseaux sociaux, elle a tenu à rappeler que la loi prévoit jusqu'à 12 000 euros d'amende pour injures publiques. Alors elle précise que ça ne la touche pas, hein, ces messages, mais elle souhaite montrer l'exemple. Elle pense à ses collégiens, ses lycéens harcelés. Vous pouvez en parler à un adulte et demander à vos parents d'aller porter plainte avec vous. Vous avez des droits. Ce n'est pas la première fois qu'un candidat de Koh-Lanta fait face à du harcèlement en ligne. L'an dernier, Régis avait reçu des menaces de mort.
La série Squid Game, véritable poule aux œufs d'or de Netflix. C'est dans les bureaux
sonore.
De Netflix ce son.
Elle devrait rapporter 900 millions de dollars à la plateforme, c'est-à-dire 770 000 euros environ.
Non, 710 millions.
10 millions, qu'est-ce que c'est
770 000 euros.
Il y aura un gros problème de conversion quand même là, entre les devises. 770 millions d'euros d'après un document interne confidentiel révélé par l'agence de presse américaine Bloomberg, c'est-à-dire 40 fois son prix de production.
Oh là là.
Et dans cette note confidentielle, on trouve des chiffres très intéressants qui ne sont jamais communiqués par Netflix. Le nombre d'abonnés qui ont regardé la série en entier, 87 millions de personnes. Netflix donne d'habitude toujours le chiffre des personnes, le nombre de personnes ayant vu au moins 2 minutes du premier épisode. On le connaissait celui-là, hein, c'est un record absolu pour la plateforme. 132 millions de personnes en 23 jours. Et autre chiffre intéressant, 89% d'entre elles ont regardé au moins 75 minutes de la série, donc plus d'un épisode. Ça confirme définitivement que cette série sud-coréenne a fait une prouesse, une véritable performance.
Et dans tous les domaines, j'ai vu que les baskets blanches qui sont portées ont été vendues par la marque, plus 11 000% de vente par rapport en temps normal.
Vous savez, ça rappelle la série
Le
jeu de la dame,
ouais.
Où les ventes d'échiquiers avaient bondi.
Ouais. Deux députés, c'est tout à fait autre chose, ont lancé une consultation citoyenne au sujet des droits télé.
Une initiative pour que le public donne son avis. Les droits télé, vous savez, c'est ce feuilleton aux nombreux rebondissements dont on vous a régulièrement parlé ici ces derniers mois, notamment avec l'affaire Mediapro. Ces deux députés, Cédric Roussel et Régis Roanico, veulent savoir comment le public l'a ressenti et surtout quelles sont ses habitudes en matière de consommation de sport à la télé, pas uniquement de foot, pas uniquement de sport masculin. Ils ont donc mis en place ce questionnaire sur le site de l'Assemblée nationale et cette consultation servira dans un rapport avec des propositions remises à l'Assemblée nationale en décembre. Vous pouvez y répondre jusqu'à dimanche.
Ce n'est pas le 1er avril, on termine ce journal avec Mediapart qui contribue à un jeu vidéo.
Mais oui, le site d'information s'est associé avec des studios de jeux vidéo, Midnight Mood et Label Games, pour créer Rubicon, la conspiration du silence. Alors pourquoi Mediapart s'est retrouvé dans ce projet ? Parce que le jeu permet de se plonger dans la vie des lanceurs et lanceuses d'alerte, ceux qui révèlent des pratiques qui vont à l'encontre de l'intérêt public, souvent dans le cadre de leur travail. Et tout le scénario du jeu vidéo est basé sur un travail journalistique, sur des enquêtes. C'est là que Mediapart a été d'une grande aide, car les joueurs incarnent une lanceuse d'alerte qui travaille dans une multinationale. Elle est en charge de la sécurité des aliments et elle se retrouve à devoir faire des choix et en fonction des décisions prises par les joueurs, eh bien le scénario inspiré évolue et tout ça est inspiré de faits réels. Le jeu est déjà disponible sur PC, iOS et Android.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos et d'autres, évidemment celles de la veille et de l'avant-veille, à retrouver dans la newsletter Média, inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.
À demain.
On va écouter de la musique, c'est Cœur de Pirate, le nouveau single de la chanteuse. Ça s'appelle On s'aimera toujours. Culture Média continue.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Demain, mercredi, cela fera une semaine que le film Eiffel, signé Martin Bourboulon, est sorti en salle. Bonne nouvelle, le film était en tête des nouveautés le premier jour d'exploitation avec 66 590 entrées. Les Français sont au rendez-vous pour ce type de film à gros budget qui nous replonge dans la France et le Paris du 19e siècle et qui retrace l'histoire incroyable de la construction de la tour Eiffel. C'était lors de l'exposition universelle de 1889, faut-il le rappeler. Ce film prouve en tout cas que le film historique est un genre à part entière et que le public le plébiscite. Une chaîne digitale a été imaginée par le groupe Canal+. Elle vient tout juste de lui être dédiée, ainsi qu'un documentaire. Alors justement, à ce propos, on va entendre Anne Martinetti qui a réalisé ce documentaire. On a demandé, nous, à Vincent Giray, qui est directeur des chaînes du groupe Canal+, quelle était la genèse de ce projet.
À l'heure où l'histoire avec un grand H et les histoires prennent de l'importance dans le débat public, que ce soit la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier ou ces derniers jours l'hommage rendu aux derniers compagnons de la Libération, il nous a semblé opportun, si ce n'est plus, d'être en résonance avec ces problématiques et de voir quel regard le cinéma porte sur ces événements historiques. Ainsi, tout au long du mois d'octobre, les chaînes Ciné+ proposent à leurs abonnés une opération exceptionnelle autour des films historiques de l'Antiquité à nos jours avec l'opération Ciné+ Histoire. Vous y retrouverez des films récents comme De Gaulle avec Lambert Wilson, mais aussi Official Secret avec Keira Knightley, ainsi que des films incontournables plus anciens comme La Princesse de Montpensier, Centurion ou La Reine Margot. Et au total, ce sont plus de 40 films à retrouver uniquement sur MyCanal.
Donc on vient d'entendre le patron de la toute nouvelle chaîne Ciné+ Histoire, qui est une chaîne digitale. Anne Martinetti, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes enfin arrivée, malgré ce qu'on appelait historiquement les embarras de Paris. Vous êtes la réalisatrice du documentaire Une histoire extraordinaire, qui sera diffusée demain soir sur Ciné+ Premier, disponible donc sur cette nouvelle chaîne digitale Ciné+ Histoire. Quel était le but d'un tel documentaire ?
Alors le but c'était de redocumenter le cinéma comme on le fait chez Otago Productions. Vous m'aviez déjà fait le plaisir de me recevoir pour Cinémia, mais là on est embarqué pour l'histoire. Deux sujets évidemment, histoire et cinéma sont des sujets qui sont bien amis depuis toujours, on part d'Intolérance de Griffith et même peut-être avant. Et donc on a eu l'idée de proposer à Myriam Hassen, que je remercie à chaque fois, mais je la remercie quand même, et bien de mettre en lien à la fois donc ben évidemment des cinéastes, des acteurs, des réalisateurs et puis ensuite des historiens pour voir à quel moment les deux pouvaient se rencontrer.
Vous avez eu le temps de voir le film Eiffel ?
Alors, j'ai pas vu la version salle, mais j'en ai vu suffisamment pour pouvoir avoir envie d'y aller, en tout cas.
D'accord, parce qu'il est vous n'êtes pas allé alors qu'il est au cœur de votre documentaire.
Alors, en fait, on a vu une version, mais nous ne sommes pas censés le dire. Ouais.
Le film est sorti à prescription, maintenant, vous pouvez tout dire.
D'accord, très bien. Le film, donc nous avons reçu Vanessa Van Duylen qui est la productrice. Mm-hmm. Les deux productrices ont témoigné pour le documentaire. Et c'est vrai que c'est un film qui est très ambitieux, qui est très, très bien éclairé, des images magnifiques. Puis bon, ça se passe évidemment alors, d'un point de vue historique à un moment où le monde est en train de basculer vers la révolution industrielle, ce profil de la Première Guerre mondiale. Enfin, on est dans un moment très très charnière de l'histoire mondiale.
Alors, c'est un film qui raconte la petite histoire, une histoire d'amour entre Gustave Eiffel et Adrienne, dans la grande histoire, celle de la construction du monument parisien. Pour faire un film historique, il faut toujours une petite histoire d'amour dans la grande histoire ?
Non, en fait, ce que nous ont dit les cinéastes, c'est surtout qu'ils avaient à cœur, non pas de reproduire, parce que ça c'était parfois infaisable, difficile, et puis qu'on aurait toujours un ou deux spécialistes, comme nous explique Patrice Lecomte, qui va nous dire que les chaussures c'est pas les bonnes, et que la perruque elle est pas tout à fait exact. Donc en fait, ils veulent incarner une époque et une atmosphère beaucoup plus qu'une reconstitution historique. Ouais. Et Madeleine Fontaine, grande costumière s'il en est, qui nous a expliqué qu'en fait, il n'était pas tant question de l'exactitude des costumes, mais surtout que les personnages et que les acteurs évoluent très à l'aise en fait, dans leurs costumes, parce que c'est ça qui donne la tonalité réaliste.
Voilà, je souris parce que je pense à Sofia Coppola qui a fait un Marie-Antoinette, et pour faire taire les critiques, elle a émis la reine en basket. Comme ça, au moins, on était tranquille. Cette petite histoire, dans la grande histoire, je dis un mot du film Eiffel, n'a pas plu à l'un des descendants de Gustave Eiffel, qui s'appelle Philippe Coupry Eiffel. Il a déclaré au journal Sud-Ouest « Le public méritait mieux, au moins la vérité ». J'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus.
Oui, alors la vérité, c'est un vrai sujet en fait pour les films historiques. Évidemment, c'est une super bonne question.
Merci. Elle vient de lui.
Donc, la vérité, c'est pas la préoccupation en fait des cinéastes qui veulent reproduire un événement ou une saga ou une épopée. C'est plutôt le fait de montrer en fait le destin. Alors, pas forcément à travers une histoire d'amour. Là, il se trouve que c'est une histoire d'amour et que la Tour Eiffel a été un peu édifiée si haute par dépit amoureux. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le film. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de montrer que les destins individuels, en fait, ce sont eux qui font la grande histoire.
Alors, on aimerait bien avoir la réponse d'un réalisateur. Je dis ça, mais en fait, on l'a. C'est Lucas Bellevaux. On vous le fait entendre juste après ça. Nous sommes avec vous, Anne Martinetti, réalisatrice du documentaire Une histoire extraordinaire qui porte bien son nom. Culture Média continue.
9h, 10h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie d'Anne Martinetti, vous êtes la réalisatrice du documentaire Une histoire extraordinaire qui sera diffusée demain soir sur Ciné Plus Premier et disponible sur la nouvelle chaîne digitale Ciné Plus Histoire. Il est question des rapports entre l'histoire et les films historiques. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Question, faut-il faire un film historique dans l'exactitude totale des faits? Une grande partie de votre documentaire est consacrée à cette question cruciale. Élément de réponse avec le réalisateur et comédien Lucas Bellevaux.
Je pense qu'on ne peut pas être exact, exactement. Il faut rendre l'idée de la vérité plutôt qu'une réalité précise, parce qu'on ne peut pas. Si on essaye de rendre, par exemple, la langue très précisément exacte, avec des expressions de l'époque et tout ça, ça devient ridicule, ça devient presque poussiéreux. Au cinéma, il faut de la vie aussi. Et donc, il faut rendre, je pense, l'idée de la vie de l'époque plus qu'une reconstitution de ce qu'on s'imagine à travers des objets. Oui, parfois, c'est pas exact. Parfois, c'est pas juste ça, c'est pas le bon camion. C'est pas très grave, ça. Ce qui compte, c'est l'esprit. C'est de raconter précisément ce qu'on veut raconter d'une époque et pas tellement l'accessoire qui, finalement, est anecdotique.
Vous êtes d'accord avec Lucas Bellevaux, Anne Martinetti ?
Oui, parce qu'en réalité, ce qui fait la force des films historiques, peut-être plus que des films contemporains, ce sont les personnages, en fait, qui vivent devant nous. Ils vivent d'une manière qu'on ne connaît pas forcément. Ils vivent dans des décors qu'on ne connaît pas forcément. Donc, c'est vrai aussi que nous, on a interviewé nos invités dans des décors historiques, le château de Montélimar, Lucas Bellevaux, nous l'avons invité au musée des Invalides. Donc, c'était très intéressant de les écouter évoquer, en fait, ce manque d'exactitude que parfois les historiens leur reprochent, alors qu'en fait, ce n'est pas leur préoccupation principale. C'est vraiment le naturel.
J'ai découvert quelque chose qui est assez frappant quand on regarde un vieux film historique qui se passe dans un vieux château du Moyen-Âge avec les tables très abîmées. Mais à l'époque, au Moyen-Âge, les tables étaient neuves. C'est l'histoire qui a patiné les tables qu'on ne veut plus toucher depuis des siècles et des siècles. Mais à l'époque, les planches étaient blanches. Elles n'étaient pas complètement crounies et cramoisies.
C'est vrai. Et puis la manière de filmer l'histoire a tellement évolué. Lorsqu'on regarde les westerns des années 50, tout le monde est très propre. Les costumes des cow-boys, ils descendent de cheval, ils ont fait des centaines de kilomètres dans le désert et ils ne sont pas du tout poussiéreux.
Mmh. Et donc, les comédiennes, elles ont des permanentes, elles sortent de chez le coiffeur.
C'est ça, exactement. Et donc Madeleine Fontaine nous explique qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail du service des costumes et de la costumière pour user artificiellement en fait, les costumes, pour que justement les acteurs qui intègrent ces costumes se sentent à l'aise, comme s'ils avaient toujours vécu dans ces costumes.
Ouais, et même quand c'est pas historique, dans La Petite Maison dans la Prairie, tout est trop neuf. Si c'est historique quand même, Petite Maison dans la Prairie.
Oui.
Quand un film ou une série historique sort, Anne Martinetti, il y a tout de suite, aussitôt, une multitude d'articles en ligne et de commentaires sur les réseaux sociaux pour vérifier ce qui est vrai, de ce qui est faux, trier le grain de l'ivraie, si j'ose dire. Est-ce que ça vous agace ou est-ce que c'est nécessaire ?
Oh, je dirais que chacun, en fait, lorsqu'on regarde un film, c'est ça qui fait la magie du cinéma, c'est que chacun voit son propre film, hein, lorsque c'est pareil pour les livres. Donc ça ne m'agace ni ne me fait plaisir, mais c'est assez drôle parce que, par exemple, pour un des films qui passe là donc, sur la chaîne Ciné Plus Histoire, ça s'appelle Deux sœurs pour un roi. Et donc Scarlett Johansson et Nathalie Portman sont les deux filles Bolen, une qui va devenir l'épouse d'Henri VIII et l'autre qui va être sa maîtresse. Et donc Scarlett Johansson joue une jeune fille très très prude, très très pure, très très irréprochable, et dans la vraie vie elle avait déjà été la maîtresse de François Ier. Donc en l'occurrence là, ça sert le propos de nous dire qu'il y a une intrigante et une jeune fille pure, mais dans la vraie histoire, en réalité, elle avait déjà été à la cour de France et elle avait eu une vie qu'on appelait à l'époque dissolue. Donc,
on fabrique en plus des archétypes pour la narration.
Bien sûr.
Crispation la plus emblématique peut-être de ce sujet avec le film culte de Sofia Coppola que j'évoquais il y a quelques instants, Marie-Antoinette, sorti en 2006. Là, ce qu'on entend, c'est la bande-son de Marie-Antoinette, donc on n'est pas tout à fait chez Jean-Philippe Rameau.
Absolument. Et puis, il y a des macarons de chez La Durée, et puis il y a des converses dans les décors.
Ouais.
Mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est plus une provocation ou une manière, en fait, d'ancrer cette histoire. Finalement, Marie-Antoinette, c'était une femme très moderne, elle voulait faire à sa guise, et ça lui a pas du tout réussi. Donc je pense qu'il y a vraiment, et c'est un peu le sujet de beaucoup de films de Sofia Coppola en fait, hein, des femmes qui veulent s'autodéterminer. Donc du coup, là je pense que c'est vraiment une posture.
Est-ce que ce film a bousculé les codes du genre?
Alors, ce film a certainement donné plus de liberté à certains cinéastes. Et d'ailleurs, dans Eiffel, le réalisateur explique qu'il a voulu donner un peu plus de modernité au costume, par exemple, et notamment au costume d'Emma McKee. Il ne lui a pas donné ces espèces de paniers qui étaient encore à la mode à l'époque. Il a déjà projeté un petit peu dans la mode du début du XXe siècle.
Plus l'histoire est proche, plus l'histoire devient politique, et donc plus elle devient compliquée à retranscrire. Et c'est le cas lorsqu'on évoque la Shoah ou encore la guerre d'Algérie. On a une responsabilité, vous explique Lucas Bellevaux, il l'ajoute, on ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est lui qui avait réalisé le film Des Hommes qui parlait de la guerre d'Algérie. Comment s'empare le cinéma des sujets dont les plaies ne sont toujours pas cicatrisées ?
Alors ça, c'est effectivement très très complexe. Et ça dépend des pays, j'ai envie de dire, parce que des pays aussi difficiles d'un point de vue historique que la Pologne, par exemple, se sont emparés très rapidement de leur histoire soviétique, ou en tout cas de satellite de l'URSS.
En France, on a un problème avec ça. Voilà. Les États-Unis ont fait plein de films sur la guerre du Vietnam, nous, on a fait très très peu de films sur la guerre d'Algérie.
Exactement. Donc, il y en a eu quand même, et très rapidement, en réalité. Mais ils n'ont pas bénéficié du grand public, et ils n'ont pas bénéficié non plus d'une couverture médiatique, parce que tout le monde se sent... Alors déjà, c'est une histoire complexe, on ne la connaît pas encore très bien, il y a des archives qui sont encore secrètes, et pendant des décennies, ça sera comme ça. Donc, et puis, surtout, il y a toujours cette tension, et Philippe Torreton explique ça en disant « C'est dommage, en fait, qu'on n'ait pas fait le film de la réconciliation avec l'Algérie. »
Philippe Torreton, qu'on retrouve dans votre doc, une histoire exceptionnelle que vous avez réalisée, Anne Martinetti. Ce documentaire est visible sur la chaîne Ciné Plus Histoire et diffusé demain soir à 19h50 sur Ciné Plus Premier. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Culture Média continue. Dans un instant, nous sommes avec Thomas Reynaud à parler de football. C'est le PDG du groupe Iliad, qui est la maison mère de Free, qui diffuse des images de la Ligue 1 de foot. Il a des annonces à nous faire qui vont ravir les fans de foot. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Thomas Reynaud.
Bonjour Philippe Vandel.
Merci d'être avec nous en direct dans Culture Média. Vous êtes le directeur général du groupe Iliad. C'est le groupe créé par Xavier Niel et c'est la maison mère de l'opérateur Free. Free qui est un opérateur téléphonique, mais également un des diffuseurs du foot français aux côtés d'Amazon, de Canal+, de Bein Sport. Vous avez des annonces à faire ce matin, mais d'abord le contexte. Vous avez acquis les droits de la Ligue 1 pour 42 millions par saison sous forme d'extraits sur mobile en quasi-direct. D'abord, c'est quoi le quasi-direct ?
En quasi-direct, c'est uniquement quelques secondes de différé, mais je vais vous donner un scoop, Philippe Vandel. Le seul média qui est véritablement en direct lorsqu'on diffuse un match de foot, c'est la radio. Parce que quand vous regardez votre match sur TF1, sur Canal+, sur Bein Sport ou sur Amazon, généralement, il y a un décalage de 15 secondes entre le moment où il y a le but dans le stade et le moment où vous le voyez sur votre télé. Et bien, c'est ça, nous aussi, c'est un décalage de 15 à 20 secondes.
Il est très, très important, ce décalage. Vous vous souvenez, pendant je ne sais plus quelle Coupe du Monde, les matchs étaient diffusés à la fois sur TF1, sur Canal+, et sur les box. Et un décalage de 10 secondes, c'est que vous entendez vos voisins qui hurlent alors que l'action chez vous n'est pas encore terminée.
Ah, c'est effrayant, c'est très, très frustrant, c'est terrible, bien évidemment. Non, nous, ce que l'on a, récupéré les droits de la Ligue 1 pour les saisons 2020-2024. C'est une autre façon de regarder le football. Vous allez à l'essentiel des meilleurs moments de la Ligue 1 sur les 380 matchs du championnat de France. C'est la seule plateforme qui vous permet de regarder les 380 matchs de la Ligue 1.
Il faut être abonné à Free ?
Il faut être pas nécessairement, c'est
alors,
ça.
C'est ça, il y a plusieurs options racontées alors.
Il y a deux parties. Pour tous les Français, vous avez la possibilité de voir 100% des buts, 100% des résumés dès le coup de sifflet final sur l'application gratuitement. Et ça, c'est en train de faire un carton, on est en train de devenir l'application numéro 1 sur le foot. On a dépassé il y a 2 semaines le million de téléchargements sur iOS, Android et sur notre plateforme Freebox.
J'allais vous en parler, mes chiffres étaient à 800 000, donc vous avez passé le million.
Voilà. Non, c'est vrai qu'on a un début de championnat qui est assez exceptionnel. Je lisais dans l'équipe, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu autant de buts sur un début de championnat.
Et puis ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu Messi surtout.
Voilà. Et puis on a un deuxième composante dans notre application qui est toujours gratuite pour les abonnés Free, mais qui est payante pour les non-abonnés Free, c'est la possibilité de regarder le match en quasi-direct sous forme d'extrait de 30 secondes à 1 minute. Nos droits nous permettent de diffuser sur chaque match en quasi-direct, donc avec 10 secondes de différé, jusqu'à 30 minutes du match.
Mais attendez, je pense à quelque chose. Comment vous faites pour diffuser les buts en différé? Puisque ça veut dire que vous savez qu'il va y avoir but.
Typiquement, on s'appuie à la fois sur une équipe de rédaction et sur de l'intelligence artificielle. Vous avez Dimitri Payet qui part de sa surface de réparation sur une superbe contre-attaque. Le but n'est pas encore marqué. on appuie sur le bouton et on commence à diffuser cette action. Mais donc, on ne diffuse pas uniquement les buts, on diffuse aussi les plus beaux arrêts, les plus belles actions, les corners, les moments forts.
Et donc, quand vous sentez qu'il y a une action qui peut être prometteuse et qui peut donner quelque chose, vous la diffusez.
On la déclenche sur notre plateforme.
J'ignorais, j'ai appris quelque chose. Ça coûte combien si on veut s'abonner, si on n'est pas abonné chez Free, mais qu'on veut s'abonner à, ça s'appelle, je vais noter, Free Ligue 1.
Free Ligue 1, si vous n'êtes pas abonné Free, c'est 3,99€ avec la promesse de ne rien rater. Je pense qu'un des enjeux aujourd'hui de la Ligue 1, c'est que vous avez une multitude de diffuseurs sur des plateformes payantes. Beaucoup de Français ne s'y retrouvent pas. Et là, dans votre poche, sur votre smartphone, vous avez les 380 matchs.
Thomas Reynaud, vous êtes dans ce studio parce que vous avez notamment une annonce à faire. Elle concerne le match le plus attendu du championnat, le Classico.
Oui, alors c'est le Classico dimanche soir au Stade Vélodrome, OM-PSG. Et on a décidé d'offrir à tous les Français en clair sur notre application ce match qui va être un très très beau match. Et du coup, vous soyez abonné Free ou non, vous aurez la possibilité de le suivre sur l'application Free Ligue 1.
Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir tout le match, on va voir les actions, on va voir les buts, qu'est-ce qu'on va voir ?
Alors, vous allez voir tous les plus beaux moments, les moments forts, les plus belles actions, les plus beaux arrêts, les buts, et j'espère qu'il va y en avoir beaucoup.
Et les plus beaux moments, diffuser... ça donne combien de temps sur un match d'une heure et demie ? C'est 10 minutes, 20 minutes,
c'est
30
minutes.
30 minutes sur une heure et demie.
30 minutes. On est très présent aussi à l'avant-match, à la mi-temps, avec des interviews de joueurs sur la zone flash, et après le match. Et dès le coup de sifflet final, à la 90e minute, vous avez le résumé en clair, gratuitement, sur notre application.
Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est interdit ? Est-ce que c'est limite ? Comment le prennent vos concurrents et vos partenaires ? Ils sont peut-être en train de l'apprendre en écoutant Culture Média,
ceci dit. Ils sont en train de l'apprendre. Bah, généralement, nous, on aime bien la concurrence. Hein. Nous sommes nés de la concurrence, ce qui a permis aux Français d'avoir des offres télécom assez exceptionnelles.
Le quatrième opérateur.
Alors, le troisième opérateur, vous pouvez même le dire, et même le deuxième employeur du secteur.
Non, on c'est a le beaucoup quatrième. Grandi. Historiquement, il est arrivé après les autres.
On s'est lancé.
Il y avait un match à trois et Free est arrivé. Et là, vous faites un petit peu la même chose avec le football.
Voilà, et nous avons aujourd'hui 20 millions de Français qui nous font confiance pour leur connectivité. Écoutez, moi, ce que je sais, c'est que c'est une annonce qui va faire plaisir aux Français, aux amateurs de foot, aux supporters, et ça, c'est génial.
Non, mais je pense aux gens chez Amazon Prime, ils se disent, mais quel est l'intérêt de s'abonner à Amazon Prime pour voir le match si on peut avoir le match gratuit chez Free ?
Posez-leur la question, mais c'est totalement légal. On ne fait que exploiter nos droits. Et vous savez qu'il y a un enjeu. D'ailleurs, c'est un jeu des droits du foot. Il y a bien évidemment la pérennité du financement des clubs, il y a le financement du monde amateur, mais il y a aussi un autre enjeu qui est la visibilité du football français. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est donner un maximum de visibilité à la Ligue 1. Et on est aujourd'hui, parmi les partenaires de la Ligue 1, probablement celui qui donne le plus de visibilité, à la fois en le rendant gratuit et disponible à 20 millions d'abonnés Free et en mettant à disposition 100% des matchs et 100% des résumés aussi gratuitement. Et là, ponctuellement, sur ce match-là, c'est vrai, on fait un coup, on le diffuse en clair sur notre plateforme.
Je voulais parler de l'action en justice que mènent France Télévisions et le groupe TF1 contre Canal+, qui était passé à la gratuité pendant le confinement. On marque une courte pause. Vous restez avec nous, Thomas Reynaud, vous êtes le PDG du groupe Iliad, qui vient d'annoncer cette bonne nouvelle pour les amateurs de foot. Le Classico OM-PSG sera gratuit sur Free. Ce sera dimanche 24 à 21h. Et avant et après. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Classico, ce qu'on appelle le Classico OM-PSG, il y a aussi PSG-OM, mais ce qui arrive dimanche soir, c'est PSG-OM. C'est sur Amazon, il faut être abonné, et c'est sur Free, il faut être abonné, mais c'est gratuit. On est avec Thomas Reynaud, vous êtes le PDG du groupe Iliad, la maison mère de Free. C'est un cadeau que vous faites à vos abonnés, ou plutôt c'est une manière de recruter ?
C'est à la fois un cadeau que l'on fait à nos abonnés tout au long de l'année. Et c'est vraiment cette application, elle nous ressemble. C'est en ligne avec l'histoire de Free, c'est démocratiser les usages, c'est inventer des nouveaux types d'usages. Et là, typiquement, avec cette application, c'est une nouvelle façon de regarder le football. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, on commence à avoir pas mal de retours de nos abonnés. C'est aussi bien le supporter qui est dans le stade et qui veut revoir l'action en un clic depuis son smartphone. Mmh. C'est le jeune qui le
ça vendredi... marche.
Et ça marche.
Ça marche techniquement. Je veux dire, à quoi ça je marche. Pense C'est quand on est dans un endroit où il y a 10 000, 20 000 personnes, parfois il n'y a pas assez de flux et ça ne fonctionne pas.
Si vous êtes abonné Free, ça marche. On a vraiment mis le paquet et, en termes d'équipement et de couverture des stades, notamment à l'occasion de l'Euro 2018. Et il y a eu vraiment une très forte amélioration de la couverture de tous les stades, de la couverture numérique des stades. Puis il y a aussi d'autres types d'usages. C'est le jeune qui, le vendredi ou le samedi soir, qui n'a pas nécessairement envie de passer 90 minutes devant sa télévision, mais qui veut surtout pas rater le but de Mbappé ou de Payet.
Je l'ai dit, pendant le confinement, c'était en mars 2020, Canal+ était passé en clair sur certaines boxes. Ils avaient diffusé des films gratuitement. Et le mois dernier, France Télévisions et TF1 ont attaqué Canal+ en justice pour concurrence déloyale. Ils demandent 40 millions d'euros. Vous me voyez venir. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être attaqué par Amazon, avec qui vous partagez les droits de la Ligue 1 pour concurrence déloyale? À savoir, eux, ils ont payé très cher pour diffuser quelque chose pour lequel les abonnés doivent payer. Et vous, vous diffusez et les meilleurs moments en gratuit. Évidemment, vous ne diffusez pas les mauvais moments.
Non, on a le droit d'exploiter ces droits audiovisuels de cette manière. Mais je voudrais préciser quelque chose, Philippe Vandel, que vous venez de dire. Vous avez dit Amazon a payé très cher ses droits. Non, on sait qu'il y a eu un énorme pataquès autour des droits audiovisuels de la Ligue 1, avec Mediapro qui a joué un coup de poker et qui a perdu. Amazon qui est arrivé en embuscade et qui a récupéré le plus beau lot, 80% des matchs, pour un tiers du prix initial, ce qui pose des questions d'équité. Donc non, ils n'ont pas payé très cher leur lot. Et oui, nous avons le droit de l'exploiter ainsi.
Vous êtes blindé, vous avez lu et relu votre contrat. Est-ce que vous avez le droit de diffuser 30 minutes comme ça, gratuites?
Oui, oui et oui. Et on le fait depuis maintenant un an et demi. Alors c'est vrai que l'année dernière, c'était un peu particulier parce qu'il y avait peut-être un peu moins de ferveur autour du championnat de France. Les stades étaient vides. Nos vies ont fonctionné au ralenti durant le Covid. Mais oui, bien évidemment, on l'a vérifié et nous avons la possibilité de diffuser en clair 30 minutes de match en quasi-direct.
Ouais. À mon avis, chez Amazon, ils sont en train de relire le contrat et vous dire non, pas du tout, les avocats se parleront. Puisque vous en parlez, je vais y venir, tout l'écosystème du foot français a été chamboulé avec le départ de Mediapro et son arrêt en race campagne, c'était au printemps dernier. Le prix global des droits de la Ligue 1 a été divisé par deux lorsque Amazon a repris ce contrat de Mediapro. Le prix global, je dis ça pour les puristes, est passé de 1,153 milliards, donc 1153 millions, à 624 millions, voilà pour le prix global. Le lot de Mediapro, qui était de 780 millions spécifiquement, a été récupéré pour un tiers, vous l'avez dit, par Amazon, au prix de 250 millions. En revanche, votre contrat, parce que vous, vous étiez là depuis le début, c'était un contrat pour 2020-2024 de 42 millions par an. Votre contrat n'a pas varié. Je vais citer le vice-président d'Iliad, Maxime Lombardini. Il a dit « Nous sommes les dindons de la farce ». Vous avez essayé de renégocier ce prix auprès de la LFP, la Ligue de football professionnel. Où en êtes-vous sur ce dossier ?
Non, c'est une question d'équité, comme je le disais. Hein. La construction de l'appel d'offres a favorisé la spéculation de la part de certains acteurs, notamment avec l'absence de garanties financières, la possibilité de sous-licencier. Mediapro a joué un coup de poker et a totalement perdu, a mis d'ailleurs en difficulté le football français. Nous, notre avis, il aurait dû y avoir un autre appel d'offres, une remise à plat de l'ensemble des lots. Et c'est vrai que ça pose des sérieux sujets en termes d'équité lorsque un nouvel acteur arrive et paye seulement un tiers du prix. Donc nous avons des discussions avec la Ligue 1. Je crois que Canal+ en a aussi de son côté.
L'exposition de la Ligue 1 est plus faible depuis qu'elle est passée de Canal+, de l'écosystème Canal+ Bing à Amazon Prime. Et la question que je me posais, c'est quel est votre intérêt? Quel est l'intérêt de Free? Est-ce que vous souhaitez une plus grande visibilité de vos partenaires pour vous ramener du monde? Ou inversement, une plus petite visibilité de vos partenaires pour vous ramener du monde?
Non, nous, ça fait 20 ans qu'on est partenaire de tous les groupes audiovisuels. Nos réseaux ont permis de mettre en valeur, développer des nouveaux usages. Et sur cette question-là, nous, ce que l'on souhaite faire, c'est avant tout apporter quelque chose de différent par rapport aux autres opérateurs à nos 20 millions d'abonnés en leur donnant accès gratuitement à 100% du championnat de France. Et en plus, moi j'en suis persuadé, aujourd'hui c'est le produit, c'est l'application qui permet d'avoir la meilleure visibilité.
Je vais parler de l'appli.
Canal+ et ouais. Amazon sont les grands gagnants de notre politique et de notre application.
J'ai mal posé ma question. Est-ce que vous avez intérêt à ce qu'il y ait beaucoup d'abonnés ou moins d'abonnés?
Moi, je pense surtout que Amazon et Canal ont totalement intérêt à ce qu'il y ait un maximum d'abonnés sur l'application Free Ligue 1, parce que ça peut susciter de l'intérêt et permettre à certains de basculer sur ces abonnements.
Je note que malgré votre sourire, vous n'avez pas répondu à ma question, Thomas Reynaud. Je reviens à votre application, justement, Free Ligue 1. Le groupe Free a acheté les droits de la Ligue 1. Il y a aussi une chaîne YouTube. Comment ça marche? Vous avez eu un petit peu de difficulté à lancer tout ça la saison passée.
Oui, parce que la saison passée, comme je le disais, les stades étaient vides. C'est une application et du coup, c'est une application, ça fonctionne en situation de mobilité et on était tous confinés à la maison. Mais là, ça y est, ça part très fort. C'est la 11e journée de championnat et on exploite nos droits sur différentes plateformes. Et ce que l'on fait aussi, et ce qui marche très bien, notamment vous aviez évoqué YouTube, on produit des contenus en propre, des interviews décalées des interviews exclusives dans les zones flash. On a aussi des podcasts, des web-séries qui marchent extrêmement fort. Et on a eu plus de 3 millions de vues sur ces différents formats.
Pardon de vous dire ça, je vais citer un programme. Par exemple, le programme Cadré, c'était 80 000 vues en moyenne sur votre chaîne YouTube, avec des pics à presque 200 000. Notamment, cette année, on est autour de 3 000. Et le programme Rookies, qui marchait très bien l'année dernière, cette année, ça stagne. Comment vous l'expliquez ?
Pourquoi ? Parce que l'année dernière, notre app avait peu de visibilité. Cette année, notre app a beaucoup de visibilité et le trafic s'est déporté de YouTube directement sur notre application.
Est-ce que vous avez vu un effet Messi ?
On a le sentiment qu'il y a un effet Messi, mais plus que l'effet Messi, j'ai envie de dire que c'est l'effet retour du public dans les stades. Ça, c'est hyper important.
Il y a aussi d'autres programmes dédiés, on ne va pas tous les citer. Il y a de l'humour avec les stadiers, il y a la vérif. Et ça m'a vraiment intéressé. La vérif, il y a des fake news dans le football ?
Il semblerait que parfois il y ait des fake news. En tout cas, c'est toute la beauté du football. Ça génère des débats, beaucoup de passion. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec cette application. Il y a les 90 minutes du match, mais il y a l'avant et il y a l'après avec l'analyse et tous ces débats contradictoires et avec toute la dose de mauvaise foi qui fait partie parfois du football.
D'une manière générale, quel est l'intérêt de Free d'investir dans le football ? Est-ce que c'est pour avoir des abonnements à la téléphonie ou est-ce que c'est en propre, ça vous fait gagner de l'argent ?
C'est à la fois pour répondre à une demande de nos 20 millions d'abonnés et c'est aussi pour attirer des nouveaux abonnés, essayer de se singulariser par rapport à nos trois concurrents. Et sur ce produit spécifique, il y a une très forte complémentarité avec nos réseaux fibres et avec nos réseaux 4G, 5G. Et je pense qu'il n'y a qu'un acteur télécom qui puisse vraiment l'exploiter dans de bonnes conditions avec un maximum de réactivité.
Merci beaucoup Thomas Reynaud. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Iliad, la maison mère de Free. Et je le rappelle, le Classico OM PSG proposait gratuitement les meilleurs moments 30 minutes sur tout le match sur l'appli Free Ligue 1 avec des extraits en quasi direct. Ce sera dimanche 24. Merci d'être venu faire cette annonce dans Culture Média. L'émission continue évidemment après le rappel des titres de 10h. Les télescopages de Bruno Donnet aujourd'hui. Il s'est penché sur les jingles de pub. Notre invitée, c'est la comédienne Cécile de France à l'affiche du film très attendu et absolument somptueux Illusion perdue d'après l'œuvre de Balzac. Et puis dans Les Indispensables, Alice Bluzet va nous emmener au théâtre voir un classique de Feydeau où il est question de tromperie évidemment, mais également d'hypnose, j'en dis pas plus. Et puis l'humoriste et imitateur Marc-Antoine Lebray, lui bien réveillé. Ce sera en fin d'émission. À tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.